Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Retrouver ce soir encore pour ces 2 heures de libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour partager nos expériences de vie, nos joies, nos peines, nos doutes, nos questions. Vous êtes nombreux à nous écouter, mais vous êtes aussi nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Je voudrais tellement parler, je sais que ça me ferait du bien, mais je n'ose pas appeler, j'ai peur. » Alors comment nous libérer de la peur et oser nous mettre en mouvement? Nous avons tous entendu dans notre enfance le mot « attention, prends garde ». Attention de ne pas tomber, de ne pas te couper. Et pourtant, malgré cet avertissement, en tant que petit enfant, spontané et enthousiaste, nous avons osé persévérer pour apprendre à marcher, courir, grimper. Nous avons dépassé les « attentions ». Malheureusement, en grandissant, nous fonctionnons souvent de nouveau sur ce mode « attention » et souvent en fonction de nos peurs. Alors qu'en réalité, le plus grand risque pour nous est de ne pas oser. En restant accrochés à nos peurs, nous créons des regrets. Qu'est-ce qui nous empêche d'oser ? La peur de nous-mêmes, bien sûr, de notre capacité à réussir, et souvent, la peur du jugement de l'autre, la peur de ne pas être aimé. Et c'est comme ça qu'on reste en mode spectateur, en se donnant toutes les raisons du monde, pour nous limiter, bloquer notre envie de passer à l'action. Et nos peurs prennent bêtement l'ascendant sur nos besoins et nos envies. Alors chassez-la, cette peur, faites-la sortir par la porte, et laissez vos besoins et vos envies s'exprimer. La porte de ce studio vous est grande ouverte pour peu que vous composiez le 3921. Amandine et Hassan attendent vos appels au standard Europe 1. Pour participer par SMS, vous connaissez aussi le numéro, c'est le 73921, en commençant bien par le mot nuit. Enfin, je vous rappelle que le thème de l'émission de demain, ce sera les animaux. Ce sera la suite de l'émission de dimanche dernier qui avait été très écourtée. Alors bien sûr, même si c'est toujours très agréable de vous entendre dire à quel point vous aimez le quatre pattes de votre vie, ce que j'aimerais avoir demain soir, ce sont des témoignages de gens qui ont vécu quelque chose de vraiment particulier, de vraiment exceptionnel avec un animal. Venez me parler par exemple de votre expérience avec un dauphin, avec un cheval. Venez me parler de ces hôpitaux comme l'hôpital Cochin à Paris où les chiens sont admis en réanimation, par exemple, parce qu'ils se sont rendus compte à quel point ça aide. Venez me raconter ces animaux qui vous font du bien. Pour vous inscrire, vous pouvez appeler le 3921 et préciser que c'est pour intervenir demain soir. Ou alors vous vous inscrivez tout simplement par mail à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Andreas Papadian est à la réalisation ce soir et tout le monde est prêt. Alors on va commencer. Alors pour ne rien vous cacher, j'aurais dû reprendre ce soir la conversation que j'ai eue avec Liliane hier soir et qui a été interrompue à 1h du matin. Liliane qui était très très touchante, malheureusement elle ne répond pas pour l'instant, j'espère donc qu'on pourra la joindre rapidement ce soir. Et puisque Liliane n'est pas là dans un instant, c'est Marie que je vais accueillir. À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et donc, bonsoir à vous, Marie.
Oui, bonsoir, Sabine.
Et nous avons un lien un peu particulier toutes les deux,
oui.
Hein, me semble-t-il.
Tout à fait. C'était la première personne que vous avez eue en fait en ligne, mm-hmm. hein, pour votre nouveau rendez-vous. Donc je ne sais plus si c'était en janvier ou février. Enfin, c'était en début d'année, en tout cas. C'était la première fois. Mm-hmm. Et déjà dans un premier temps, je voulais vous dire merci. Parce que ça m'a apporté beaucoup.
Ah, alors, tant mieux. Racontez-moi ce chemin parcouru.
Alors, parce qu'en fait, je vous ai appelé à cette époque-là parce que c'était très compliqué. J'avais une maman qui était dans une situation très difficile. J'avais été aidante pendant pas mal de temps, sans aucun retour. J'avais une sœur, j'ai toujours une sœur qui avait des gros problèmes. Donc, j'étais aussi aidante pour ma nièce, etc. Enfin, c'était très, très compliqué. C'était très lourd depuis de nombreuses années. Et je me souviens toujours, alors par contre je ne me souviens pas de toute l'histoire, mais je me souviens que vous m'aviez à la fin dit ben, « Écoutez, je vais vous raconter une histoire », et c'était l'histoire d'un train avec des wagons.
Le train de la vie, oui.
Voilà. Hein. Et donc ces wagons qui, au fur et à mesure qu'on les accrochait les uns aux autres, devenaient très lourds et cette locomotive n'arrivait pas à avancer. Et qu'à un moment il fallait couper quelque part
décrocher les wagons inutiles.
Ce qui correspondait aux autres et pas à soi, en fait.
Tout ce qu'on traîne n'était pas à nous, tout à fait.
Et donc ce message, je l'ai très très bien entendu. Alors, ça a beaucoup changé, pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais pas si longtemps que ça après, je dirais peut-être 3 semaines après, et j'ai complètement changé. Et dans mes relations, justement, avec ce qui me posait problème à ce moment-là, avec ma mère, avec ma sœur, etc. Et j'avoue que je m'en sens très très bien. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ce moment qu'on avait échangé, parce que ça a vraiment changé mon optique et je m'en sens très bien, sans aucune culpabilité, en me disant, c'est la vie des autres et tout en étant là quelque part, en gérant un petit peu, je dirais, le côté un petit peu administratif et très léger, mais plus dans l'affect qui était trop, trop prenant.
Plus à traîner tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir mentionné ça, Marie. Ça va me permettre de faire une petite explication concernant ces fameuses histoires thérapeutiques, les métaphores. Parce que quelquefois, j'ai des messages de gens qui ne comprennent pas, qui disent qu'est-ce que c'est que ces contes pour enfants. Ça c'est pour ceux qui sont gentils, d'autres sont plus insultants concernant ces petits contes. Sauf que là, vous l'avez compris, les contes thérapeutiques sont des petites graines qu'on sème.
Exactement.
Et sur le moment, on se dit, tiens, c'est une belle histoire. Et en fait, ça reste.
Oui.
Et effectivement, il faut entre 21 et 28 jours pour que les connexions neuronales se fassent et que ça change des choses. Et c'est très important ce que vous venez de dire parce que ça arrive très, très fréquemment. Une métaphore, ça sert à ça. C'est vraiment une graine qu'on plante tranquillement. Et sur le moment, on se dit, c'est comme quand on plante quelque chose, il ne se passe rien. Et puis d'un seul coup, ça se met à pousser. Et quelques semaines après, on se dit, tiens, finalement, j'ai changé. J'ai compris ça, j'ai compris ça.
Exactement.
Et c'est un chemin vraiment intéressant qu'on fait tout en douceur, finalement.
Exactement. Exactement, vous voyez, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Ça s'est passé 3 semaines, entre 3 semaines et 1 mois après. Mais sans éclat,
sans violence.
Sans violence, naturellement. Et par contre, c'est installé. C'est quelque chose qui s'est installé, sur lequel je ne reviendrai pas, parce que ça a fait son chemin et mais c'est vrai effectivement à la minute même je me suis dit bon c'est une histoire je l'ai pris comme une histoire et puis finalement effectivement moi je trouve que c'est extrêmement positif parce que justement il y a aucune récrimination, il y en a eu aucune d'ailleurs, et pourtant c'est une situation assez conflictuelle et ça s'est installé en moi et ça s'est mis très très naturellement. Et maintenant, je me pose même plus la question, je dirais.
C'est un très très bel outil, les métaphores thérapeutiques.
Ah oui, c'est extraordinaire.
J'aime beaucoup ça aussi. Je trouve que c'est tout en douceur. En fait, on accompagne quelqu'un vers quelque chose et il y va tout seul finalement.
Exactement.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun prend ce dont il a besoin dans une histoire comme ça.
Voilà.
Et chacun garde ce qui est bon et utile pour lui et en fait ce dont il a besoin. Donc vous avez fait votre chemin avec cette histoire-là. Racontez-moi alors après, comment tout ça a évolué.
Alors, moi du coup, j'ai plus de questions par rapport à ça, parce que j'ai coupé certains wagons. c'est-à-dire qu'il y a des choses qui perduraient depuis des dizaines d'années. Qui étaient très nocives, très toxiques et puis ça s'est fait c'est pour ça que je suis assez étonnée quoi, d'une façon extrêmement naturelle. Alors maintenant, ma maman est âgée, donc c'est moi qui gère un petit peu les aides. Qu'elle a accepté maintenant, qu'elle refusait au moment où je vous appelais. Enfin, tout s'est mis tout à fait en ordre, je dirais. Dans un ordre logique et sans conflit. Bon, maintenant, on n'a plus de rapport. c'est vrai que c'était des contacts qui me perturbaient. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué à ce moment-là.
C'était lourd. Hein.
C'était très lourd. Ouais. C'était très, très lourd. Et donc, tout ça s'est allégé. Voilà.
Bon.
Donc, enfin, c'est très bizarre, hein, parce qu'à quelques mois de distance, je pourrais dire, j'ai plus de soucis par rapport à ça. Ça, c'est vraiment...
Quelquefois, c'est ce que j'essaie souvent de dire aux gens qui sont dans des situations très difficiles. Quelquefois, on peut avancer beaucoup plus vite qu'on l'imagine.
Exactement.
Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais si près du but où on est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est.
Oui.
On a l'impression quelquefois que c'est très loin, et si ça se trouve, il y avait un dernier pas à faire et on y était.
Exactement.
Mais ça, on le sait pas quand on est dedans, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir.
Voilà.
Quelquefois, l'issue, elle est beaucoup plus proche que ce qu'on aurait pu imaginer.
Voilà. Si ça peut vraiment, je sais pas, encourager des gens à faire ce pas. Parce que c'est vrai que souvent, on est dans un système qui est en boucle, que on en souffre, mais on ne voit pas l'issue, quoi. Et puis, on peut avoir une issue tout à fait calme, sans confrontation, sans... Voilà, tout ce qu'il y avait avant, tout ce qui était... Et puis, effectivement, on peut couper certains liens. Bon. Mais on peut les couper avec,
raison,
avec calme, et puis en étant là un petit peu derrière. Voilà, moi je suis un petit peu là, je gère quelque chose d'administratif, mais je pense que c'est très important se dire qu'on peut y arriver, quoi.
Bien sûr.
Rien n'est fatal, rien n'est définitif, on peut y arriver.
J'aime bien aussi l'image du manège. Quelquefois, on est dans notre vie comme dans un manège, ça va de plus en plus vite. Et on est persuadé qu'il faut s'accrocher au manège et qu'on ne pourra pas faire autrement.
Voilà.
Et quand on comprend qu'on peut descendre, et que ça va vite finalement, et qu'une fois qu'on est descendu, on a le recul nécessaire. On voit les choses différemment. Et on peut choisir d'y remonter et de ralentir le rythme, ou de ne pas y remonter. On peut prendre ce temps-là. Mais tant qu'on est dans le manège, on a l'impression qu'on ne pourra pas en descendre. C'est pareil. Et pourtant, ça va vite.
Je pense qu'aussi parce que, d'ailleurs, j'en ai parlé à mon fils, de cette métaphore que vous m'aviez faite et de cette histoire du train, parce que lui est complètement réfractaire à toute aide, etc. Et effectivement, dans ce manège, c'est-à-dire qu'il se dit aussi, je maîtrise, je vais maîtriser, je vais y arriver tout seul, je n'ai besoin de l'aide de personne, parce que je vais le faire tout seul.
Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça ?
Oui. Voilà.
Je dis rien.
Mais... mais à un moment, je me dis, je sème aussi mes petites graines de mon côté, et je me dis peut-être qu'à un moment, ça va faire son chemin aussi.
Oui, bien sûr.
Hein, je pense que d'une autre façon, parce qu'effectivement, je ne suis que sa maman, donc c'est très compliqué d'accepter des choses de sa maman, de ses proches. Mais je me dis, je sème aussi mes petites graines comme ça, de ce que j'ai appris, notamment de vous, à cette période-là. Et je me dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment, ça va faire son chemin aussi.
Et de toute manière, même si ce n'était pas par ce chemin-là, le fait de vous voir changer, change des choses pour lui.
Oui.
Nos enfants sont nos miroirs.
Oui. Oui.
Et à partir du moment où on change quelque chose, on ne peut pas changer l'autre, mais quand on change soi-même... De manière générale, l'autre, finalement, nous regarde autrement et donc change aussi, quand même.
Oui, oui.
Et donc, si vous évoluez, si vous gérez les choses avec plus de sérénité, vous devenez aussi un exemple différent pour votre enfant.
Voilà, c'est ce que... On a une grande discussion à ce propos cet après-midi, justement. Oui, oui. Par rapport à des non-dits, par rapport à toute une histoire et... Oui. et dire ben oui, voilà, je l'ai fait, tu as vu les changements, tu vois ce que ça peut apporter. Alors pour l'instant, il n'est pas réceptif, mais je me dis que voilà, s'il voit les effets, enfin je le fais pas pour ça, hein, je dirais que je le fais un petit peu égoïstement, mais je pense que pour lui aussi ça peut être productif, hein, je pense, et un exemple quand même.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vouliez parler ce soir, Marie?
Oui,
il me semblait bien.
Alors, voilà, en fait, je vous appelais pour une autre chose, parce que j'ai vu que, bon, cette chose-là étant vraiment réglée et bien faite, et grâce à vous, je dirais que c'était un petit peu quelque chose qui cachait ma vie sentimentale, voilà, parce que en fait, j'étais tellement investie dans tout, pour ma mère, pour ma sœur, pour ma nièce, pour mon fils, etc., que je me suis pas vraiment investie pour moi-même, notamment dans le domaine affectif. Mmh. Et là, bon, récemment, rapidement, bah, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, enfin. Vraiment comme ça, hein, de contact, hein, je dirais, qui était quand même plus jeune que moi, déjà, ça me posait un petit souci.
De combien plus jeune?
10 ans, quand même.
Oui.
Hein, quand même. Mais voilà, hein, il ne s'est rien passé, c'est pas... voilà. Mais je me suis rendu compte que du coup, alors peut-être parce que cette personne était plus jeune que moi, au départ, il y avait un contact qui était normal, je dirais, bon, d'homme à femme. Et puis ensuite, je suis vite retournée dans le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire le côté maternant, le côté...
Je prends en charge.
Je ne suis plus du tout dans la relation homme-femme, mais dans la relation femme-enfant. Je dirais, pourtant, avec 10 ans, voilà, d'écart, c'est pas, ça devrait pas être le cas, mais c'était le cas. Et en fait, c'est ça. Mon souci, c'est que je me dis, bah, avant, ça ne m'arrivait pas, hein. Auparavant, il y a 10 ans, ça n'était pas le cas. Et je me dis, je me suis tellement investie dans mon côté maternant pour tout le monde que j'ai un petit peu peur de reproduire ce schéma dans une vie sentimentale et de reprendre un... Voilà, de ne plus être dans le côté bah, d'une femme, mais d'une maman, d'une écoute, d'une, voilà. Donc, et ça m'inquiète un petit peu.
Vous retrouvez ce schéma, ce fonctionnement où vous avez besoin qu'on ait besoin de vous?
Oui, mais en même temps, là, j'en suis pas satisfaite parce que je vois bien que... Enfin, c'était pas mon fonctionnement avant, d'ailleurs, hein, au niveau de ma relation en tant que femme et avec un homme, hein, je dirais. Et là, je dois dire que ces quelques années où j'ai été vraiment investie dans tout ça, je me suis rendu compte qu'au départ, j'ai été naturelle et j'ai été, voilà, dans une relation, je dirais, normale. Et peut-être que j'ai pas eu confiance, j'ai eu peur et je me suis dit, bah, je reprends ce que je connais depuis quelques années, quoi. C'est-à-dire le côté maternant, le côté et puis plus du tout femme, quoi. Côté maman quelque part, un petit peu.
Alors vous avez eu le mot juste, vous avez dit manque de confiance. Et effectivement, quand on manque de confiance, on a une partie de soi qui veut plaire, qui est dans la séduction, et puis on a une autre partie qui est persuadée qu'elle n'est pas à la hauteur. Et donc, cette partie qui n'est pas à la hauteur, elle veut en faire trop. Elle se dit, si je suis juste là pour plaire, ça ne va peut-être pas suffire. Donc, si je m'occupe de tout, ça sera encore mieux.
Voilà.
Et vous êtes dans cette dualité-là, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc là aussi, peut-être qu'il y aurait un travail à faire pour essayer de comprendre. Peut-être que réfléchir à toutes les fois dans votre vie, vous avez été critiqué ou rabaissé et vous demander si c'était vraiment justifié, par exemple. Ça, c'est pour redorer sa confiance en soi. Vous pouvez aussi travailler en faisant ce qu'on appelle un cercle de confiance mentale autour de vous, dans lequel vous vous accordez déjà toutes les qualités qui sont les vôtres. Vous posez mentalement, vous imaginez ce cercle et vous vous dites, vous listez, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je suis quelqu'un de bien ? C'est vraiment un rendez-vous intime entre vous et vous. Il n'y a pas, ouais. À jouer quoi que ce soit, simplement se dire, voilà, tout ce que j'ai fait de bien, j'ai le droit aussi de me nourrir de ça, de mettre ça dans mon cercle de confiance. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai comme force ? Qu'est-ce que j'ai comme savoir ? Qu'est-ce que j'ai comme expérience ? Qu'est-ce que j'ai comme apprentissage ? Qu'est-ce qui fait que malgré le fait que je sois tombée plein de fois, je me suis relevée autant de fois ? Tout ça, c'est à inscrire mentalement dans un cercle autour de vous, c'est vraiment important. Et puis, une chose importante aussi, quand on se comporte comme ça, c'est d'arrêter de se comparer. Parce que ce qui fait qu'on perd confiance en soi et qu'on a l'impression qu'il faut en faire plus ou trop, c'est qu'on a du mal à accepter de ne pas être parfaite. Or, la perfection n'existe pas, donc c'est une quête sans fin et épuisante. Et surtout, on se compare. Mais on ne se compare jamais de manière objective. On se compare toujours en trouvant que les autres sont mieux. Beaucoup trop souvent.
Et puis, oui, c'est vrai que peut-être que cette expérience-là, mais aussi, enfin, ça m'a fait prendre conscience de ça, le fait que ce soit quelqu'un qui soit plus jeune que moi aussi, c'est-à-dire que je me compare à des gens qui sont plus jeunes que moi. Donc, je me suis dit, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire le physique, le...
Oui, vous mettez une pression supplémentaire, en fait.
Oui, c'est des pressions supplémentaires. Voilà.
C'est déjà difficile de... Peut-être vous vous dites c'est difficile de plaire à quelqu'un de mon âge, mais de plaire à quelqu'un d'encore plus jeune, ben, il faut que je sois encore plus performante. Et peut-être que vous transformez ce besoin d'être performante en maternage.
Oui, voilà.
Parce que là, c'est un domaine que vous connaissez et vous savez que vous êtes bonne là-dedans.
Voilà, exactement.
Sauf que c'est un schéma. Peut-être que la vie vient vous mettre ça sous le nez, si je puis dire, pour vous montrer que vous avez appris et grandi depuis les dernières expériences. Et la preuve, c'est que vous me dites, ça ne convient pas. Donc, vous vous en êtes rendu compte rapidement.
Oui.
Et souvent, la vie vient nous mettre un petit test, une petite expérience pour qu'on voit, qu'on comprenne si on a appris ou pas. Et ce que vous avez appris de cette expérience avec votre maman, il est peut-être temps de la transposer dans vos rapports amoureux aussi. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Et c'est pas parce que vous faites des choses pour les autres, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Une fois de plus, ne pas confondre être et avoir.
Oui.
Et ne pas confondre non plus arrogance et confiance. L'arrogance pousse les autres vers le bas. La confiance nous tire vers le haut. Donc avoir confiance en soi, c'est une qualité. Une fois de plus, créez-vous un cercle de confiance dans lequel vous mettez toutes vos qualités.
D'accord.
Tout ce qu'il y a de bien chez vous, tout ce qui vous plaît chez vous. Comme si vous étiez en train de vous dédoubler et que vous deveniez votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami qui a un petit coup de mou ? Vous lui trouveriez plein de qualités, plein de choses sympas à lui dire. On est souvent comme ça avec les autres, mais on a beaucoup de mal à l'être avec soi-même.
Exactement, c'est vrai.
Devenez votre meilleur ami.
D'accord.
C'est essentiel d'être bien avec soi avant d'être bien avec les autres. De restituer cette confiance-là et ce cercle de confiance virtuel, vous l'installez pour qu'il vous accompagne partout, dans toutes les situations. Et puis... Petit conseil aussi, chaque soir, envoyez-vous des pensées positives, envoyez-vous des mots positifs à vous-même.
D'accord.
Ça aussi, c'est important. Ce qu'on se dit à soi-même a beaucoup d'importance. Vous n'avez rien à prouver à cet homme-là. Dans une vraie relation amoureuse, il n'y a rien à prouver. Et si lui est venu chercher une maman ou quelqu'un qui le materne, c'est son histoire, c'est son problème. Si vous, ça ne vous convient pas, alors c'est que c'est pas le bon.
Oui.
Ou alors, une fois de plus, que la vie est juste venue vous mettre cette expérience sous le nez pour que vous vous rendiez compte à quel point maintenant vous comprenez votre mode de fonctionnement.
D'accord, oui, je comprends. Ouais.
Après, vous voyez ce qui se passe. Si vous décidez, vous, de changer cette façon de faire et d'être avec lui... Ça peut aussi parfaitement fonctionner.
Oui, parce que je crois que des fois, c'est moi qui l'instaure, quoi.
C'est un petit peu ce que je voulais vous amener à dire aussi, c'est que vous en êtes assez consciente et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous avez penser que c'était un schéma possible et peut-être souhaitable dans lequel il peut s'installer, parce que c'est pas désagréable, pour être honnête, pour l'autre. Forcément, c'est assez confortable d'avoir quelqu'un qui... Au début, ça peut vite ensuite être pesant, mais en tout cas, proposez-lui un autre mode de fonctionnement et puis vous verrez bien si ça fonctionne bien et si chacun trouve sa place différemment.
Tout à fait, oui.
Parce que 10 ans d'écart...
Je pense que c'est très important parce que je pense que ça soit lui ou quelqu'un d'autre. De toute façon, je pense qu'il faut un autre mode de fonctionnement. Sincèrement, je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Je pense pas que ça soit le bon, sincèrement, ce mode de fonctionnement, de toute façon.
Non, et puis vous l'avez vous-même compris très bien, c'est que c'est le même mode que vous aviez avec votre mère.
Oui.
C'est j'ai besoin qu'on ait besoin de moi, parce que sinon, est-ce que je vaux vraiment quelque chose ?
Exactement.
Or oui, vous avez de la valeur. Et c'est pas parce qu'on a besoin de vous que vous avez de la valeur. C'est parce que vous êtes qui vous êtes.
Oui, oui.
Et une fois de plus, c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment de la confiance.
D'accord.
Cette confiance, on vient au monde avec. Vous savez, un petit enfant de 2 ou 3 ans, vous lui demandez s'il se trouve beau, bah ouais. S'il se trouve intelligent, bah ouais. Vous le mettez dans un lieu public, il parle à tout le monde. Vous récupérez les mêmes quelques années plus tard, ils se trouvent tous moches, idiots, et parler en public, c'est devenu un drame.
C'est vrai.
C'est terrible.
C'est vrai. Oui,
toute cette belle confiance avec laquelle on vient au monde, c'est la vie, les expériences, les humiliations, les comparaisons qui nous cassent et qui font que petit à petit on recule de plus en plus. Mais libre à nous un jour d'arrêter de reculer et de reprendre la route, comme vous l'avez fait déjà de manière extrêmement positive avec votre relation familiale.
Oui.
Et de se dire, non mais après tout, non mais moi c'est pas comme ça que je veux être. J'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit d'avoir confiance en moi et en la vie. Et si je me trompe, eh ben j'ai aussi le droit de me tromper. Un enfant qui se casse la figure quand il apprend à marcher, si il se disait tout de suite « Ouh là là, je suis tombée, c'est dramatique », mais il ne se relèverait jamais. Et on serait tous en train de marcher à 4 pattes.
C'est vrai.
Et oui, cette belle persévérance, on l'a quand on est petit. Et après, comme vous disiez, la peur.
Ouais.
La peur qui détruit tout. Oh, je sens que ça cogite de l'autre côté.
Oui. Oui, tout à fait. Oui, non, mais ça fait tout à fait écho à plein de choses. Donc, effectivement, oui, ça cogite, effectivement.
Alors, pendant qu'on discute, il y a quelqu'un qui me demande si je peux lui donner des titres de livres sur les métaphores thérapeutiques. Il y en a des dizaines. Là, j'en ai un qui me vient spontanément à l'esprit qui s'appelle Les mots sont des murs, mais des fenêtres aussi. J'ai plus l'auteur en tête, mais simplement tapez livre métaphore thérapeutique, il y en a plein, et vous trouverez, pour ceux qui sont intéressés par ça, vous trouverez ceux qui vous conviennent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été écrits, ça dépend dans quel domaine. Je l'ai mentionné plusieurs fois à l'antenne, pour les enfants, il y a un très joli livre qui s'appelle Petites histoires hypnotiques du soir, qui a été écrit par Sabrina Ferret, qui permet aux enfants, mais plus petits, qui vous permet à vous de leur lire des histoires qui sont déjà des métaphores thérapeutiques pour enfants. Mais il y en a plein. Tapez simplement ça sur Internet et voyez les commentaires, voyez ce qui vous convient, parce qu'il y en a dans des domaines très différents.
Mais
je vous invite tous à découvrir tous ces livres sur les métaphores thérapeutiques et toutes ces histoires qui font du bien. Et qui, comme vous l'avez si bien dit, de manière très simple et très souple, amènent un changement beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer.
Tout à fait.
Et je comprends que les gens qui ne l'ont pas vécu peuvent trouver ça quelquefois nunuche ou neuneux, c'est ce que j'ai entendu quelquefois aussi.
Ah oui, mais c'est vrai que ça peut un petit peu...
Ça déroute parce qu'on n'est pas habitué à ça.
Voilà, exactement. Moi, je sais que quand vous me l'avez raconté, je m'en souviens toujours cette première fois, vous êtes intervenue et vous m'avez dit « je vais vous raconter une histoire ». Je me suis dit « bon ». J'ai écouté l'histoire et je me suis dit « bon ». Et j'ai raccroché, je me suis dit « bon ». C'est une histoire, bon.
C'est joli, voilà.
Voilà. Et la preuve, c'est que quelques mois plus tard, je m'en souviens toujours, pas dans les détails, mais je la visualise. En fait, je la visualise. Je visualise l'histoire. Et je l'ai visualisée et c'est quelque chose qui... j'ai raccroché, c'était une histoire et... Et puis petit à petit, effectivement, ça a fait ce chemin qui est absolument incroyable.
Et ce qui est intéressant, c'est quand vous m'en avez parlé tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit et je ne vous le dirai pas parce qu'il ne faut jamais décortiquer ce que le conscient remonte.
D'accord.
Mais en fait, ça n'est pas exactement l'histoire que j'ai racontée. Vous l'avez adaptée et vous avez traduit, et c'est exactement ce que je vous disais, vous avez pris ce qui était bon et utile pour vous.
Ah oui.
Et vous avez transformé ce qui vous aviez à transformer. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça fonctionne aussi.
Ah oui.
Vous avez mentionné quelques phrases qui ne sont pas exactement l'histoire originale, mais c'est très bien. Et tout le monde fait ça, en fait, en thérapie, en tout cas en hypnose, quand on travaille sur les métaphores, c'est toujours intéressant de voir ce que la personne en fait. Quelquefois, je parle d'un écureuil et la personne me dit « Waouh, j'ai adoré l'ours !» Mais symboliquement, ça a un sens aussi, tout ça.
Mais c'est ça qui est important aussi, c'est parce que, éventuellement, on peut écouter ces émissions en replay. Et je ne l'ai pas fait. J'ai été tentée de le faire pour écouter l'histoire.
Mmh.
Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, inconsciemment, certainement, je me suis dit, ce que je devais en retenir, j'ai certainement déjà retenu.
Et c'est exactement comme la graine qu'on plante. Ça ne sert à rien de rouvrir la terre pour voir si elle est bien plantée.
Voilà.
C'est la même chose. Et vous l'avez senti inconsciemment. Le message était passé.
Voilà.
C'est bon, l'inconscient est intelligent, il prend ce qu'il apprend, il n'a pas besoin qu'on lui répète 40 fois les choses.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, en fait. J'ai été tentée à un moment et je ne l'ai pas fait. Et finalement, ça a été vraiment... Je suis toujours étonnée, là, hein, parce que... Changer tellement après des années, c'était extraordinaire, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Donc déjà, je vous remercie encore énormément.
Avec grand
énormément.
Plaisir, je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous. Vous savez, je ne suis pas psy, et je n'ai jamais été psy, et je n'ai jamais revendiqué d'être psy. On ne m'a pas demandé de l'être non plus. Je dis ça pour répondre à certains de mes détracteurs. Je ne suis pas psy, je suis hypnothérapeute. J'ai d'autres outils.
Oui.
Et j'apporte d'autres façons de fonctionner. Et ça fonctionne différemment, mais ça fonctionne très très bien. La preuve en est, et moi je le vois tous les jours à mon cabinet, c'est que ce sont d'autres outils qui abordent les émotions de manière différente, mais qui fonctionnent aussi très très bien.
Oui.
Et moi ça me passionne vraiment, c'est un domaine que j'adore.
Mais écoutez, en tout cas, je suis là pour en témoigner.
Et c'est très complémentaire avec le travail qu'on peut faire avec un psy classique. C'est autre chose, mais ce sont d'autres chemins. Et dans la vie, il y a 1000 chemins pour arriver quelque part.
Exactement.
Pourquoi prendre toujours le même ?
Voilà. Voilà, et tout à fait, et c'est pour ça que, enfin, en dehors de tout, je voulais vous le dire, parce que, voilà, on peut être dérouté au départ et se dire que ça peut sembler quelque chose d'anodin, qui n'est qu'une histoire, et avec tout le bienfait que... Et peut-être que moi, ça a été ça, et que quelqu'un d'autre, ça sera une autre... je sais pas, une autre approche, tout ça, mais en tout cas, je sais que voilà, ce genre d'approche est très très importante.
Parce que vous avez eu l'ouverture d'esprit nécessaire à ça aussi, sans jugement. En disant juste...
Je pense, voilà.
Voilà, voyons voir après tout. Si ça marche pas, ça marche pas, et bien tant pis, c'est que j'aurais essayé.
Voilà.
Vous avez eu cette ouverture-là de vous dire... Pourquoi pas laisser faire les choses et puis voir ce qui se passe.
Voilà. Voilà.
Maintenant, il y a un petit chemin à continuer, hein, Marie. Vous l'avez compris ce soir.
Ah, ça, je le sais. J'en suis consciente. Mais c'est pour ça que je fais mon chemin pas à pas. J'essaie de le faire bien, déjà. Et que chaque pas que je fasse, comme le pas que j'ai fait, hein, après cette fameuse discussion... au mois de janvier, soit un vrai pas, pas des petits pas comme ça, mais qui n'aboutissent à rien. Là, je sais que le pas que j'ai fait, ça a été un pas important, construit, consolidé, et que maintenant, il est acquis.
Donc je sais qu'il y en a d'autres à faire. Oui, tout à fait, mais vous avez bâti le socle, c'est l'essentiel.
Voilà.
Vous avez posé les rails, pour reprendre la métaphore du train, quand on pose les rails, après, c'est quand même plus facile.
C'est beaucoup plus facile.
Il y a Thierry qui envoie un SMS en disant « Bonsoir, Marie est une magnifique personne, très intelligente, je lui laisse mon numéro. »
Ah.
Vous en faites ce que vous voulez, Marie.
D'accord.
Je vais repasser à Amandine, vous allez gérer ça avec elle comme vous voulez.
D'accord.
Et rappelez-moi dans un an pour me raconter la suite alors.
Oui, oui, mais j'y manquerai pas parce que vraiment, en dehors de tout ça, voilà, je voulais témoigner aussi pour ça.
Merci.
Et vous remercier.
Merci à vous de cet appel, Marie, je vous embrasse.
Merci beaucoup.
À
Merci.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et venez prendre la parole ce soir sur cette libre antenne, appelez le 3921, venez vous parler, venez me parler de vous, quand vous voulez, jusqu'à 1h du matin nous sommes ensemble et c'est maintenant Nathalie que j'accueille avec grand plaisir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci. Voilà, moi je vous explique, là ce soir je ne me sentais pas très bien parce que j'avais retrouvé un amour de jeunesse. Et là, il m'a envoyé un SMS qui m'a vraiment blessée, qui m'a fait très très mal. Parce que voilà, il n'est pas libre, il n'est pas marié, mais enfin il a une compagne. Mmh. Et bon, on s'est connus, j'avais 16 ans, hein, et lui avait 19, et
quand
maintenant
vous dites,
j'en ai... Quand
vous dites connu, c'est-à-dire vous êtes allé...
Mais quand on s'est fréquenté, oui. J'avais 16 ans et lui 19 ans. On est resté jusqu'à 21-22 ans ensemble.
Ah oui, donc c'est une vraie histoire.
Ah oui, et j'ai même quelque chose qui... Je n'ai pas d'enfant, hein. Quelque chose qui m'a marqué énormément, c'est que j'ai fait un avortement avec cette personne. Et alors, lui, depuis après, j'ai refait ma vie. Je me suis mariée, j'ai divorcé. Mmh. Mon mari m'a quittée pour une autre femme. Et lui a fait sa vie également. Il a deux fils. Et bon, il a divorcé, mais on s'est raté, je vais dire raté, parce qu'on s'est retrouvé en 2011, et lui avait acheté une maison en 2010. Bon, il y a eu des choses, et il s'est mis, disons, ménage avec la personne avec qui il est. Et alors, on s'est fréquenté, parce qu'il y avait des sentiments, tous les deux, tout était parfait, mais je ne le voyais qu'une fois par mois. C'est-à-dire qu'il est à 600 kilomètres, hein, de chez moi, quand même. Alors, il venait une fois par mois, deux jours. Et puis là, il devait venir la semaine prochaine, il vient régulièrement, il m'appelle régulièrement. Et alors là, il ne peut pas venir parce qu'il a un de ses fils qui doit venir le voir. Bon, ben, ça je comprends, hein, tout à fait. Et puis je n'avais pas vu, il m'avait passé un SMS pour me prévenir avant, mais en me disant « je te rappellerai le lendemain pour en parler à vive voix ». Et je n'avais pas vu son SMS qu'il m'avait envoyé, alors si bien quand il m'a dit « je ne pourrais pas venir », moi, c'est vrai que j'étais tellement contente. Je lui ai dit, si tu peux pas venir, il devait venir lundi ou mardi. J'ai dit, à ce moment-là, tu peux venir jeudi ou vendredi. Il m'a dit, je peux pas. Bon, alors j'étais un petit peu déçue parce qu'à ce moment-là, je me trouvais chez la coiffeuse quand il m'a appelé.
Vous faisiez bien pour lui ?
Un petit peu. Oui. Un petit peu. J'avais choisi ce jour. Un petit peu, oui. Il y avait quelque chose comme ça. Mmh. Alors, je lui ai dit, bon, écoute, je peux pas trop. Puis, je lui ai dit bisous, je raccroche. Mais ça n'a pas duré. Il a vu que j'étais assez vive quand même, parce que c'est pas tellement mon habitude. Et là, à la suite de ce coup de fil, il me repasse un SMS en me disant, lorsque je t'ai appelé, tu m'as bien fait sentir ton mécontentement. Je ne pouvais quand même pas refuser à mon fils de faire un détour pour me voir. Or, ce n'était pas ça du tout, hein. C'est le coup de me dire, bon, jeudi, vendredi, je ne pourrai pas.
Oui, c'est la déception. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué chez le coiffeur, en plus de parler de choses intimes.
Oui. Alors, un détour pour te voir. Si vraiment, alors il me rajoute, c'est ça qui m'a fait très mal. Si vraiment ça te déplaît du fait que je ne suis pas disponible comme je le souhaiterais, je peux tout simplement arrêter, je vous dis vulgairement comme il m'a marqué, de me taper. C'est-à-dire, à chaque fois, il fait 6 heures de route, aller-retour, de dépenser du carburant et user la voiture. Il faut que tu sois bien consciente que ça représente entre 6 000 et 7 000 kilomètres par an. Ce n'est quand même pas rien. Ça m'a blessée énormément parce que je me suis dit, je suis quelqu'un quand même depuis qu'il est avec cette personne. Il m'a raconté des choses. J'ai eu la confirmation par ses copains parce qu'on a gardé des amis de jeunesse qu'on connaît toujours et qu'on voyait tous les deux. Hein. Mmh. Et alors, moi, jamais je lui ai posé la question de dire « tu choisis », jamais je ne l'ai embêté. Quand quelquefois c'est arrivé, elle appelait dans la voiture ou quand il était chez moi. Alors là, j'avais mis quand même les points sur les i parce que je lui ai dit « je veux pas qu'elle appelle quand je suis chez moi », mais elle savait pas qu'il était avec moi. Alors, il lui passait des SMS. Jamais j'ai fait un faux pas pour que, ça le compromette dans sa relation, enfin avec elle, quoi. Mmh. Et alors, j'ai trouvé très vexant qu'il m'envoie ce SMS. Alors, je me suis dit, ou alors il veut devancer une rupture, et que la veille, il me disait qu'il tenait à moi, qu'il m'aimait. Bon, enfin, c'est facile, par SMS, on peut dire n'importe quoi. Hein. Mais ça m'a énormément blessée.
Alors, je comprends, Nathalie, mais j'ai un peu l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau, votre histoire. C'est-à-dire qu'il a été très maladroit, certes, oui. Mais vous aussi. C'est-à-dire que vous l'avez compris, vous êtes dans une relation, vous êtes sa maîtresse quelque part.
Oui.
Dans une relation de légèreté. C'est-à-dire que je pense qu'il vous confie effectivement des choses intimes, que les emmerdements, les tensions, tout ça, c'est ce qu'il vit probablement dans son couple ou dans sa famille. Toutes les contraintes d'un quotidien. Avec vous, c'est du léger, c'est du bonheur. Là, effectivement, vous avez réagi de manière un peu vive parce que c'était pas le bon moment, pas le bon endroit. Mais vous ne lui avez pas dit pourquoi vous avez réagi comme ça.
Non, mais je lui ai renvoyé un SMS, justement, en lui disant que je comprenais très bien pour son fils. Je lui fais comprendre et je terminais par un mot très gentil. J'avais du sentiment pour lui et je lui disais à bientôt.
Oui, mais
il ne m'a pas répondu, là, hein, pas du tout.
Vous me donnez l'impression, tous les deux, d'être comme deux animaux blessés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a blessé l'autre et l'autre, comme il a mal, il blesse le premier. C'est-à-dire que vous avez bondi à sa réaction. Je pense que lui a été très surpris de vous voir...
Oui, parce qu'il n'a pas l'habitude que je dise tout ça.
On sent qu'avec lui, vous êtes plutôt ronde, douce...
Même très tolérante. On me le dit. Hein.
C'est sûrement ce qui lui fait du bien aussi. C'est sûrement ce qu'il vient chercher sur votre épaule.
C'est possible.
Et là, d'un seul coup, vous devenez pour... Bêtement, parce que matériellement, vous êtes chez le coiffeur et que c'est le pire endroit pour discuter... Et qu'en plus, vous êtes déçu, donc ce cumul de choses peut être un peu énervé, un peu fatigué ce jour-là, et vous êtes du coup un peu incisive, on va dire. Il le prend mal, du coup, vous surréagissez. Mais moi, j'entends quand même qu'il y a de l'amour dans cette histoire-là.
Ah oui, moi, je pense que je tiens à lui. Je pense, lui aussi. C'est-à-dire, au début, c'est toujours tout nouveau, tout beau, mais enfin, disons que maintenant, j'ai des doutes. Parce que je me dis, bon, c'est vrai, quand on s'est retrouvés, c'est lui qui a insisté à revenir dans ma vie. Hein. Moi, je ne voulais pas. Je lui ai d'ailleurs posé la question. J'ai dit, quelle vie tu vas m'offrir? Il m'a répondu dans les médias, je te verrai une fois par mois. Ce qu'il a tenu parole. Hein. Et puis aussi, on s'est retrouvés parce qu'on avait une petite mamie en commun. C'est-à-dire que lui a été malheureux avec sa propre maman. Et cette mamie, elle est un petit peu sa mère. Et moi, je m'occupais de cette mamie. J'avais beaucoup d'affection pour elle. Alors, on allait la voir en maison de retraite, tout ça. Depuis, mamie est décédée. Et j'ai l'impression, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, le 13 avril. Mais je vous avoue, quand il venait, on allait la voir, ou on l'amenait au restaurant, quand elle pouvait, parce qu'après, elle était dans un fauteuil roulant. Mais elle était très agréable. Elle allait avoir 98 ans, c'est une personne très agréable à distance. Qui avait bien sa tête et tout. Et j'ai l'impression que depuis que cette mamie est partie, il y a quelque chose pour moi qui s'est brisé quand même.
Alors ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir
mais
avec le coup de fil.
Oui, mais moi j'avais peut-être fait cette analyse moi toute seule en me disant cette personne-là, j'étais heureuse, vous voyez, quand on était tous les trois.
C'était comme un lien familial entre vous, j'ai l'impression.
Oui, parce que j'ai eu une maman adorable. Hein, elle est décédée aussi, adorable. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas fait, et je n'ai pas eu de grands-parents. Hein. Alors j'en avais parlé à mon docteur, il me disait, c'est pas anodin. C'est vrai que je me suis attachée à cette petite mamie, quoi. Et lui, bon, on était tous les trois, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose... il y a quelque chose qui s'était brisé, enfin, moi, dans mon esprit, hein, dans ma tête, c'est ce que je ressens.
C'est comme si vous aviez essayé de recréer une sorte de famille autour de vous, avec elle et lui.
C'est possible.
Quelque chose
et elle aurait
du
été heureuse, je pense, qu'on se retrouve ensemble, vous voyez. Parce qu'au début, quand il est revenu vers moi, bon, c'est vrai que je ne voulais pas, honnêtement. Bon, il m'a raconté ses histoires, j'ai eu la confirmation par des amis, donc je me suis dit, parce qu'un homme, pour amener une femme dans un lit, il raconte un peu n'importe quoi. Et là, je me suis aperçue que c'était vrai. Alors, au début, il m'aurait proposé de... Il me l'a dit, hein, il m'a dit, si je venais avec toi... Alors, au début, moi, très surpris, je lui ai dit, ça demande quand même un temps de réflexion. Parce que moi, tout de suite, comme ça, le retrouver, je ne l'avais pas revu depuis... 40 ans, hein, quand même. Hein. Alors, le retrouver comme ça, moi, repartir avec quelqu'un comme ça, non, il me fallait réfléchir. Et puis après, je me suis dit, après tout, connaissant la personne, ce qu'elle était capable de faire, et comme ils ont une maison en commun, ils ne sont pas mariés, mais ils ont une maison en commun, effectivement, il m'a dit, je me suis renseignée, mais si... Alors, il m'a trouvé cette excuse, je ne sais pas si c'est vrai, il me dit, si elle ne veut pas vendre, elle risque de m'embêter. Alors, je ne sais pas si c'est possible quand on... Parce qu'elle a...
Ça peut engendrer des situations très compliquées. Hein.
Parce qu'elle a le quart de la maison. Il me dit, si elle ne veut pas vendre... Alors, bon, il n'est pas de première jeunesse, lui, non plus, hein, puisqu'on a 2-3 ans d'écart, 2 ans. Et donc, bon, je me suis dit, c'est possible. C'est vrai qu'à l'âge où il est, et je pense que c'est une personne qui aurait risqué vraiment de l'ennuyer, quoi. C'est sûr. Hein.
Nathalie,
je
pardonnez-moi,
pense.
On va devoir faire une courte pause le temps des
oui.
infos. Il y a deux questions qu'on va se poser après les infos.
Oui.
C'est petit 1, quelle est la partie de vous qui réagit? Est-ce que c'est la partie intellectuelle ou est-ce que c'est le cœur? Et petit 2, qu'est-ce que vous rejouez? Et quelle est cette blessure du passé que vous lui faites payer à lui maintenant, peut-être? On va parler ça dans un instant, si vous voulez bien.
D'accord. D'accord.
Je vous récupère juste après les infos.
À tout de suite.
Merci, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Et c'est l'heure de retrouver Sophie Tissot pour le dernier point info de la journée. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la peur et l'ambiance de fin du monde lors des incendies hier dans le Gard. La PMA pour tout au cœur de la marche des fiertés à Paris. Et puis le G20 au Japon n'est pas un échec pour Emmanuel Macron.
Europe 1.
Les pompiers toujours mobilisés dans le Gard pour éviter que les incendies ne reprennent. Ce vendredi, une soixantaine de départs de feu ont été enregistrés, dont une trentaine simultanées. 15 pompiers, 6 gendarmes ont été blessés. Un homme suspecté d'avoir provoqué des départs de feu a été interpellé à Quissac et placé en hôpital psychiatrique. Pauline est propriétaire de chevaux. Elle habite à Vauvert dans le Gard et s'est retrouvée au milieu des flammes. Une scène apocalyptique.
Je suis arrivée en catastrophe et j'étais sur le chemin des canaux et j'ai vu cette grosse fumée, c'était vraiment impressionnant, des cuves de gaz des voisins qui explosaient, les oiseaux, c'était impressionnant, les oiseaux tombaient du ciel, de la chaleur et de la fumée. Moi dans mon jardin j'avais des oiseaux qui tombaient de partout quoi, c'était vraiment apocalyptique, c'était l'enfer. Je vois même moi mes voisins qui ont un certain âge etc, je les voyais... hurler de panique, vraiment de panique, d'effroi. C'était vraiment, c'était cata. Moi, je suis enceinte en plus de 2 mois. J'ai failli, j'allais perdre mon bébé quand j'ai transféré mes chevaux. Mais bon, fallait quand même avancer et sortir les chevaux de là. Donc, quand on croit que ça va jamais nous arriver, mais une fois que ça nous arrive, on se dit, ça y est, on va tout perdre, quoi.
Pauline, au micro Europe 1 de Romano, qui est la canicule qui fait également des ravages sur les vignobles. Dans le Gard et l'Hérault, les dégâts sont considérables. Selon la FNSEA, les vignes semblent avoir été comme brûlées au chalumeau. Pour le moment, 75 départements sont toujours en vigilance orange, mais la situation va s'améliorer. C'est ce que nous dira Laurent Cabrol dans sa météo à la fin du journal. Il a fait également très chaud ce samedi à Paris, 38 degrés à l'ombre, et c'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée la marche des fiertés. 5,5 km de parcours dans le cœur de la capitale, un événement qui a coïncidé cette année avec le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, du nom d'un bar gay de New York, l'événement fondateur du mouvement LGBT. Et cette année, un défilé très revendicatif, la PMA pour toutes et pas de loi minima.
Cette année, la marche des fiertés avait vraiment un sens particulier pour nous, puisqu'on a eu un fils par PMA et on veut se battre pour que tout le monde ait le droit d'avoir des enfants par PMA en France.
La PMA pour toutes maintenant, pas quand on aura 50 ans. On la promet depuis déjà assez longtemps. Depuis la campagne de Macron, on nous promet la PMA et c'est toujours pas arrivé. Donc on marche aussi pour que les choses se bougent, aillent plus rapidement et pas que ce soit reporté. Tout ça parce que des vents contraires disent que c'est de mauvais augure de mettre la PMA en France.
Il y a encore besoin, je pense, de faire changer un peu les mentalités, mais je pense qu'il y en a qui ont encore l'esprit un peu étriqué avec la norme homme-femme pour un enfant, mais tant qu'il est heureux, que tout le monde est heureux, c'est le principal.
Des témoignages recueillis par Pauline Jacquot. Autre mobilisation, celle des Gilets jaunes. Acte 33 ce samedi. Participation en net recul après un léger regain la semaine dernière. 5670 personnes ont manifesté partout en France contre 11800 la semaine dernière. Et alors que la France suffoque, le climat était au cœur du G20 au Japon. Un accord pour lutter contre le réchauffement climatique a été signé par tous les pays à l'exception des États-Unis. Il réaffirme le soutien des 19 pays au texte signé à la COP21 à Paris en 2015. Pour Emmanuel Macron, ce sommet n'est pas un échec.
On a clarifié la position du Brésil sur le climat et la biodiversité. On a maintenu dans le camp de l'accord de Paris la Turquie qui hésitait, qui était en train de partir. On a réussi à avoir des avancées sur la fiscalité du numérique sur le plan international. Je passe après sur les sujets qui ont avancé, égalité femmes-hommes, plastique, etc. Et on a pu avoir des discussions structurantes que je n'aurais pas pu avoir sinon sans ces rendez-vous, en particulier avec le président chinois, le président russe, le premier ministre indien et le président turc, sur les sujets de la Syrie et de l'Iran. Donc par rapport à ça, si je dois rendre compte aux citoyens, aux contribuables français du bilan carbone, c'est plus efficace d'avoir fait un seul trajet que d'avoir fait 4 trajets pour faire ces bilatérales avec les dirigeants que j'évoque.
Emmanuel Macron, micro européen de Jean-Rémy Baudot. Autre accord signé, celui entre l'Union européenne et le Mercosur, 4 pays d'Amérique latine. Un accord qui ulcère les agriculteurs européens et notamment français. Il menace selon eux leur activité et crie à la concurrence déloyale. Le Mercosur va notamment pouvoir exporter vers l'Europe quelques 99 000 tonnes de viande bovine au taux préférentiel de 7,5%. Après l'accostage du Sea-Watch la nuit dernière à Lampedusa en Italie, Paris se dit prêt à accueillir 10 migrants. 40 candidats à l'exil ont débarqué après que le navire humanitaire a forcé le blocus des eaux territoriales italiennes. La capitaine du bateau a été arrêtée. Le football, la Coupe du Monde féminine et la Suède est la dernière qualifiée pour les demi-finales. Elle a battu l'Allemagne 2-1. Les Suédoises qui affronteront donc dans le dernier carré les Néerlandaises qui se sont imposées face aux Italiennes ce samedi après-midi. 2-0. La météo, 75 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule, mais ça va s'améliorer, Laurent Cabrol.
Ah, il a fait très très chaud aujourd'hui, c'était vraiment un temps encore caniculaire, mais c'est vraiment le dernier jour de l'épisode, on en est pratiquement certain. Dès demain, on ressentira cette faiblesse des températures, ou cette faiblesse toute relative des températures. Nous perdrons parfois 5, 6, 7 degrés, hein, notamment à Paris, où il ne fera que 29 demain. Et il en fera 24 à Caen, 20 degrés à Saint-Brieuc, ce sera presque frais, 27 à Lille, 28 à Bordeaux, 32 à Nice, à Nevers et Metz 33, à Toulouse et Marseille 34-35 et Strasbourg, Colmar, Lyon autour de 38. Voilà pour les valeurs de ce dimanche qui sera une journée souvent teintée de passages nuageux, avec notamment sur la Gironde des petites bruines, avec sur les côtes de la Manche des petites ou des grosses brumes. Le temps ne sera pas limpide. Il y aura même des nuages sur l'Île-de-France. Nous aurons peut-être quelques pluies du côté de la Bretagne, la Normandie et la Picardie sous forme d'averses. Bref, il n'y a que dans l'est de la France qui continuera à faire chaud. Mais vraiment, on sent que le temps bascule puisque nous passons d'un vent de sud à un vent d'ouest. Et là, nous ressentirons donc le changement de temps assez flagrant demain et beaucoup plus flagrant lundi.
Merci Laurent Cabrol, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 7 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
D'Europe 1, nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à appeler pour prendre la parole jusqu'à la fin de l'émission. Vous faites le 39-21, vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan qui vous guideront jusqu'à moi. Et puis je vous rappelle que comme chaque soir, vous pouvez participer à l'émission par SMS en tapant le 739-21. Et en pensant bien à commencer par le mot nuit, vos SMS sont importants pour poser une question à la personne qui intervient, apporter une idée, peut-être simplement un mot gentil, un soutien. Car vous le savez, la Libre Antenne, c'est une grande famille.
Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Nathalie, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là, Sabine.
Alors, je vais être très franche avec vous. Avant les infos, je vous posais deux questions. Quelle est la partie de vous qui réagit ? Est-ce que c'est l'ego et la partie intellectuelle ou est-ce que c'est le cœur ? Et puis je vous disais, je sens chez vous une énorme méfiance par rapport aux hommes et un problème probablement d'injustice ou de trahison. Et je voulais qu'on parle de ça. Maintenant, pendant les infos, je vous avoue que j'ai reçu beaucoup de SMS d'auditeurs qui disent que vous êtes déjà très nombreuses fois passées sur différentes antennes pour parler de cette histoire. Alors, ce qu'on va faire, ce qui me pose problème, c'est que je me dis que les gens qui appellent, même s'ils ont déjà appelé, c'est qu'ils en ont besoin et qu'on est là pour ça. Et d'un autre côté, je comprends que des auditeurs qui ont déjà entendu votre histoire plein de fois soient ennuyés. Donc on va peut-être
Qu'elle évolue. Comprends les auditeurs, ça doit les lasser.
On va peut-être transformer ça, si vous le voulez bien, en expliquez-moi justement ce que vous venez chercher ce soir que vous n'avez pas trouvé les fois précédentes et qu'est-ce qu'on vous a conseillé et qu'est-ce que vous en avez fait. Ça serait intéressant.
Ce que je veux dire par là, je veux bien croire que les auditeurs s'en lassent, c'est possible, Mais ce que je veux dire, c'est qu'une relation évolue. Alors, quelquefois, elle évolue pas toujours dans le bon sens. Il y a des choses qui peuvent se terminer très bien, d'autres très mal. Et ces périodes-là où cette histoire évolue, on a envie d'en parler parce que ça fait du bien d'avoir des conseils parce qu'il y a toujours des étapes. C'est vrai que je ne sais peut-être pas prendre une décision non plus, hein, moi, mais c'est sûr. Mais disons que ça fait du bien d'en parler parce que quelque part, elle fait mal parce que moi, elle dure depuis, on va pas dire une vie, mais presque, quelquefois. Presque. Mmh. C'est ce que je veux dire par là. C'est ça. Et là, je me dis, c'est vrai, à l'âge où je suis maintenant, en plus, j'ai une sœur qui est très malade. J'ai des petits soucis autrement. Et donc, je me dis, il faut prendre une décision ou continuer ou arrêter, quoi. On recule toujours l'échéance parce qu'on se dit, tourner une page à l'âge où je suis, ce serait maintenant, non. Mais terminer cette histoire aussi me ferait très mal.
Alors, je vous repose la question, quels sont les conseils que mes collègues vous ont donnés et qu'est-ce que vous avez fait ou pas ?
C'était quelqu'un de très confortable, quoi. Il avait les deux personnes en même temps.
Oui, mais quels conseils on vous a donné à vous, Nathalie ? Qu'est-ce qu'on vous a conseillé de faire et qu'est-ce que vous avez fait ou pas ?
On m'a simplement dit, comme je suis quelqu'un d'indépendant, j'acceptais quand même cette situation, quoi. Et je l'ai continué, oui, effectivement.
Donc, c'est que ça vous convient ?
À demi. Voilà, on va dire la vérité, à demi. J'ai besoin de tendresse, j'ai peut-être pas eu tout ça. Alors peut-être quelque part, le peu que j'ai avec cet homme, on peut pas dire qu'il me convienne, mais enfin, je m'en contente.
Moi, voilà ce que j'entends dans toute votre histoire, dans tous vos mots, c'est que vous lui faites quand même payer, et vous faites payer des choses du passé.
Lui faire payer, moi je ne ressens pas ce style.
Alors c'est peut-être un peu fort payer, mais en tout cas, dans votre comportement, vous surréagissez à des choses qui ne sont pas forcément énormes parce que ça réveille des blessures plus anciennes. C'est ça que je veux dire de manière plus diplomate.
Oui, mais je comprends, c'est possible. Mais voyez par exemple là, le dernier SMS qui m'a envoyé en me disant je peux simplement arrêter. En voulant dire de prendre la route comme ça. Ça me surprend quand même. Je veux dire, il me tend peut-être une perche, là, justement.
Dans quel sens, une perche ?
Pour la rupture.
Mais pourquoi vous ne vous parlez pas de manière plus directe ?
Là, comme il n'est pas vraiment libre, je ne l'appelle pas.
Enfin, les SMS, on ne gère pas les problèmes de couple par SMS ?
Non, du tout. Mais justement, lui, peut-être que ça l'a facilité de passer ce petit SMS, vous savez. On dit peut-être quelquefois plus facilement par SMS qu'à vive voix, quoi.
Mais dans votre façon de parler, il y a beaucoup d'interprétations. Il y a peut-être que si, peut-être qu'il pense que.
Oui, c'est vrai.
Cette interprétation, comme elle est faussée par le filtre de votre blessure et de votre sensibilité à tout ça, méfiez-vous. Parce que quelquefois, quand on interprète, on est loin de la réalité.
C'est possible.
Donc à vous maintenant de savoir ce que vous voulez dans cette relation, si le moitié-moitié dont vous parlez vous convient ou pas. Et si ça ne vous convient pas, c'est facile.
Oui, tout à fait. Mais lui, c'est ce qui me fait comprendre, justement. C'est ce que je veux dire par là dans ce SMS en me disant, c'est simple, je peux arrêter. Moi, j'ai compris ça, quoi.
Mais il n'a pas complètement tort, en fait. C'est à vous de choisir. Oui. Soit ça vous convient et vous ne vous braquez pas pour des choses qui n'en valent pas la peine, soit ça vous fait du mal. Et c'est votre droit aussi, mais dans ces cas-là, c'est à vous de reprendre les rênes et de dire, moi, je change de route, quoi.
Oui, oui, absolument. Non, mais tout à fait, absolument.
Mais là, si vous restez sur cette route-là, tout en vous disant, ça me fait du mal à chaque fois, ça va être compliqué.
C'est vrai.
Mais la décision vous appartient.
Je ne suis pas sereine. Mais enfin, je lui ai répondu avec le SMS. Je ne lui ai pas répondu que je voulais cesser, quoi. Même sur la colère, si j'en ai eu envie. Mais enfin, je me suis quand même retenue parce que je lui ai fait quand même comprendre, effectivement, que je comprenais pour son fils. Mais il y a des choses qui font très mal aussi parce que quand j'entends ses fils, quand il me parle de ses enfants, moi, j'ai une histoire quand même. Cet enfant, je ne l'ai pas eu, mais j'ai pas eu d'enfant par la suite.
Et ben voilà le nœud du problème.
Mon ex-mari voulait un enfant. Moi, je n'ai pas voulu. Cette histoire m'a suivie, quoi. Et on en a parlé tous les deux. On en a parlé au début que je l'ai rencontré. Je lui ai dit qu'il m'avait fait énormément de mal, tout ça. On a bien discuté. On en a parlé. Il m'a dit, tu sais, j'étais jeune, je ne comprenais pas. Alors, je lui ai laissé une chance en me disant, avec la maturité, la sagesse, peut-être qu'il comprendra. Puis je me rends compte que par ses agissements, par ses façons de faire, on ne change pas, quoi.
Non, mais je pense que chez vous, la colère, elle est encore là de cette période-là.
C'est possible.
Et c'est peut-être ça qu'il faudrait évacuer chez vous. Pour vous libérer, vous, je ne parle même pas de votre relation avec lui. Mm-hmm. Mais quand on vit avec une colère, et il y a de quoi, parce qu'un avortement, c'est quelque chose d'extrêmement violent pour une jeune femme.
Oui.
Quand on vit avec cette colère-là, c'est à soi qu'on fait du mal.
C'est vrai.
Et peut-être pourriez-vous vous faire aider pour évacuer ça et vous pardonner à vous-même et à la vie de vous avoir fait subir cette épreuve-là.
C'est vrai.
Ça pourrait vous adoucir pour la suite.
Oui, je pense.
D'accord,
oui,
Nathalie.
Je vous remercie. Et excusez-moi auprès des auditeurs.
Non, mais je pense que ça, je voulais simplement être cash avec ça. J'avais envie d'être sincère avec vous.
C'est bien, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je vous remercie.
Merci
Bonne
à vous.
Soirée.
Merci. Au revoir.
Au revoir, merci.
La Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin. Envoyez vos messages à la Libre Antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et je vais faire maintenant la connaissance de François. Bonsoir François.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Je suis intimidée.
Oh bon, il n'y a pas de quoi. Je vous dis, installez-vous comme si on était tous les deux.
À la maison, d'accord.
Exactement.
Bon, je vais vous faire rigoler, j'écoutais les émissions depuis tout jeune, j'ai 59 ans, et j'écoutais depuis l'âge de 16 ans Macha Meryl à l'internat, au lycée,
oui.
La nuit, voilà.
Et oui, nos ancêtres, Ménie Grégoire et Macha Meryl. Macha Béranger,
oui.
Pas Macha Meryl, Macha Béranger.
Macha Béranger, oui. Pardon. Macha Béranger, c'est une actrice.
Oui, tout à fait. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas, là, oui.
Oui, oui, oui. Je les admire toutes les deux, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Je les admirais, puisqu'il y en a une qui n'est plus là.
Oui.
Quand j'ai des insomnies, j'écoute les émissions Europe 1, comme ça. Voilà.
Et je vous en remercie.
Et donc, j'avais une petite question qui me trottait la tête. Ça fait depuis vendredi dernier. Je voulais vous appeler il y a 2 ans, sur Europe 1, sur la Libre Antenne, après le décès de ma maman. Et puis, j'ai encaissé tout. Hein. C'est très dur. On a 59 ans, mais on accepte tout. Et puis, finalement, on est grand et on surmonte, quoi, en fait. Hein. Mais c'était pas pour ça. En fait, je vous appelais parce que je me suis brouillé avec une amie depuis 19 ans. Voilà. Pour une banale histoire, on était au restaurant et j'ai dû dire des mots qu'il ne fallait pas. Je vais essayer de résumer après.
Attendez, juste que je comprenne, vous êtes amis depuis 19 ans ou brouillé depuis 19 ans ?
On est amis depuis 19 ans.
D'accord.
On était amis depuis 19 ans.
D'accord.
Elle m'a présenté son compagnon, pardon, à l'époque. Je suis ami avec son compagnon aussi, donc on était en bonne relation tous les trois.
Mmh.
Hein. Il n'y a jamais eu de quiproquo, j'ai jamais eu de sentiments amoureux envers elle. Tout au début, mais elle m'a dit « je suis avec mon compagnon hein. ». J'ai dit « bon, il n'y a pas de souci ». Et tout de suite, ça l'a fait en amitié. Bon, pas de problème. Et jamais j'ai eu l'intention de changer la situation. Hein.
Mmh.
Et donc, cet ami, lui, ils sont séparés, elle s'est séparée de son mari. Enfin, elle a eu une vie un peu tumultueuse entre son mari et son compagnon, où elle l'a quitté, revenu, elle s'est brouillée avec ses enfants, avec ses filles. Ça a été très difficile pour elle sur les séparations et les retrouvailles, on va dire. Je résume vite fait pour éviter de continuer à polémiquer. Finalement, récemment, elle m'appelle, elle me dit on va manger au restaurant, je connais un petit restaurant qui est sympa, je donne pas de détails. Et je dis il n'y a pas de souci, écoute, je vais t'accompagner. Il faudrait une discussion. Et au moment de cette discussion, elle émet un point de vue. Le point de vue sur l'éducation des enfants.
Oui.
Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème, j'écoute son point de vue. Elle me dit, de toute façon, quand on élève des enfants, il doit y avoir un papa et une maman. C'est un triangle. Vous avez les deux enfants, vous avez le papa, la maman et les enfants en dessous. Ah d'accord, ouais, je l'écoute. J'ai dit, mais ça veut dire que tu exclus les familles monoparentales, tu exclus les familles homoparental, et ça veut dire que quelqu'un tout seul va pas pouvoir élever pareil un enfant. Ça sera plus dur, je te l'accorde, mais il y a... j'ai dit, t'es psychorigide. J'ai eu un mot un peu fort, je l'accorde. Je pensais plutôt manichéen, etc. et tout ça. Elle s'est levée, elle a pleuré, elle est partie, elle a dit, bon, c'est plus la peine qu'on se voit. Et elle a envoyé des SMS en disant, je ne veux plus qu'on ait de ressentiment, je ne veux plus qu'on se voit et tout ça. Voilà. Donc, je suis un peu...
Ça paraît excessif, tout ça. Mais que je comprenne bien,
paraît,
là,
oui.
Vous avez tout mis dans le même sac. Hein, parce que monoparentalité...
Oui.
Homosexualité, ça, c'est pas la même chose. Donc, quel a
non,
été
non,
le vrai,
d'accord,
le vrai
c'est
sujet,
pas la même chose,
problème
hein.
pour elle? Qu'est-ce qu'il a, sur quoi vous avez appuyé là chez elle qu'il a secoué comme ça?
Ben, qu'on pouvait élever des enfants tout seul, sans qu'il y ait forcément un papa et une maman. Si on avait la crampe, c'était beaucoup plus dur. Et sur le fait qu'on puisse élever un papa, un enfant tout seul, en ayant un côté masculin pour pouvoir faire les câlins aux enfants, leur raconter des histoires, remplacer un peu le rôle de la maman pour l'homme et inversement pour la femme. C'est un peu sur le... Je disais, c'est plus dur, c'est vrai. On peut pas être à la fois... On a tous un... Enfin, moi, je pars du principe qu'on a tous un peu en nous un côté homme, un côté femme,
on a tous une
plus ou moins développé.
Une partie masculine, bien sûr.
Voilà, plus ou moins développé selon les individus. Et qu'un papa tout seul ou une maman tout seul peut éventuellement élever ses enfants, ça sera plus dur parce qu'il n'y a pas... Ce côté, on va dire balle de ping-pong, je te donne le gamin, tu me le redonnes, ne serait-ce que pour la marche. Et c'est parti sur ça. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple d'une petite cousine qui avait eu du mal à marcher parce que le pédagogue avait expliqué à son papa qu'il était tout seul, qu'il n'y avait pas l'échange entre la maman était décédée.
Et c'est ce que j'allais vous dire, comment font tous les couples divorcés ou quand il y a un des deux parents qui est mort?
Eh ben voilà.
Mais
et elle a marché plus tard.
Bah oui, mais...
Elle a marché un peu plus tard, c'est vrai, mais elle est parfaitement équilibrée, elle est gentille, elle est adorable, la gamine. Et j'essayais de lui expliquer ça, et c'est là qu'elle est partie en vrille, on va dire, en pleurant. Et donc j'ai dû toucher un point sensible par rapport à son histoire personnelle.
Bah, j'ai l'impression, parce que je vois pas où est la polémique là-dedans.
Ben moi non plus. Et je me pose toujours la question. C'est pour ça que j'ai fini par vous appeler, parce que je me disais, j'ai envoyé des messages en lui disant, mais je ne suis pas contre toi, j'ai une opinion peut-être différente de la tienne, mais je ne suis pas contre toi. Je te comprends.
Mais
que
une opinion
fait...
sur quoi, puisqu'elle ne vous a pas répondu? Quelle est son opinion à elle?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas. C'est peut-être le mot psychorigide, quand j'ai dit psychorigide.
Oui, c'est un peu maladroit pour une amie. Mais enfin, quand on est ami avec quelqu'un, si on ne peut pas surmonter ça, ça me pose un problème quand même.
Ben oui.
Quand on est proche de quelqu'un, on peut être maladroit et lui dire « Excuse-moi, pardon, je ne sais pas ce que je voulais dire » ou « Je ne sais pas, mais... »
C'est ce que j'ai fait tout de suite après, en lui disant « Je me suis trompé de mot, excuse-moi, le mot était mal... »
Ça a dépassé ma pensée, voilà, ça peut arriver.
Voilà, j'ai voulu dire plutôt manichéen, c'est-à-dire tu vois qu'une partie de la chose, de la solution, mais il n'y a pas eu de discussion possible, elle est partie, et depuis, j'avais ses clés, elle me redemande ses clés d'appartement, parce qu'elle avait le double clé au cas où il y arriverait un problème, donc je les gardais chez moi, en cas où, etc. Mais j'ai trouvé que c'était une réaction excessive par rapport au sujet, quoi, en fait.
Ben moi, ce qui m'ennuie, c'est pas que ce soit excessif, c'est qu'elle s'explique pas. Parce qu'elle peut avoir une réaction excessive et ensuite se calmer et vous expliquer pourquoi. Et ça a touché forcément quelque chose, là. Vous avez réveillé quelque chose.
Ah ben, j'ai réveillé quelque chose, ça, c'est sûr. Hein.
Mais comment peut-on avancer dans une relation amicale si on ne se dit pas les choses?
Et surtout qu'avant, on avait une conversation, avant d'aborder ce sujet-là, elle va pas très bien avec ses soucis. J'ai dit, elle fait une psychothérapie. J'ai dit, mais ça suit pas. Tu devrais plutôt faire une psychanalyse. Tu devrais faire une psychothérapie comportementale. Mm-hmm. Ça irait un petit peu plus vite sur certains,
oui.
Parce que ça empêche pas l'autre, mais tu vas avancer plus vite sur justement tes émotions.
Oui.
Et c'est vrai, t'as raison, justement, elle était d'accord avec mon jugement. J'ai dit, maintenant, c'est toi qui vois, justement, etc. Donc, en fait, c'est surtout au niveau des émotions que Alors, moi, ça m'a complètement, on va dire, surpris. Voilà, surpris. Et voilà, je suis resté un petit peu...
Il y a de quoi. Quelle est sa situation exacte en ce moment dans sa vie sentimentale? Elle en est où? Avec ses enfants?
Elle est en séparation, elle a retrouvé un appartement où elle va habiter, avant sa maison où elle est avec le compagnon avec qui je suis resté en bon terme, hein, il n'y a pas de souci.
Donc elle est un peu en vrac là, dans ce domaine-là?
Ben ouais, elle est un peu en vrac.
Et avec ses enfants? Parce que c'est le sujet enfant là qui a réagi.
Eh bien, justement, avec une de ses filles, elle est complètement en discorde. Elle est partie à Londres, etc. S'est remariée, etc. C'est très mal passé au mariage, etc. Et puis, avec sa plus jeune, ben, la plus jeune, elle est tout le temps en train de faire du reproche parce qu'elle lui fait le reproche de s'être séparée de leur papa, qui est décédé aujourd'hui.
Mais voilà, donc elle se retrouve dans cette situation d'être une mère seule avec sa fille.
Voilà.
Il manque le troisième pilier.
Ben voilà, le triangle n'est pas fait pour elle, quoi, en fait. Le triangle qu'elle voulait m'expliquer, vous voyez ce que je veux dire dans la soirée.
Oui, mais pourquoi sauter au plafond à ce point-là, contre vous?
Ben, justement, je me pose encore la question. Hein. Là, j'ai reçu un message en me disant que je la faisais pleurer. Je vais vous lire la fin du message. Plus jamais personne ne me fera mal, ni pleurer, sinon pleurer de rire. Voilà, le dernier mail en me demandant d'aller porter les clés, parce que je vous ai dit que j'avais les clés. Donc ça veut dire que je l'ai fait pleurer. Voilà.
Je pense qu'elle a pleuré toute seule parce qu'elle est pleine de larmes, mais que ça n'a pas grand-chose à voir avec vous. Hein.
Ben, c'est ce que je me dis. Son ex-compagnon m'a dit oh, laisse tomber, dis-lui que tu l'aimes, etc. Enfin, que tu es encore ami avec elle, que tu as toujours. Mais ne relance pas. Et il a raison, quelque part.
Bah, c'est un peu ce que j'allais vous dire. Je pense que ramenez-lui ses clés avec un cadeau, un bouquet de fleurs ou ce qu'elle aime, des chocolats, j'en sais
et
rien.
C'est exactement ce qu'un ami m'a dit. Tu lui apportes un bouquet de fleurs.
En lui disant en lui disant. Pardon de t'avoir fait pleurer, je t'aime, mais parlons-nous, quoi, voilà. Quand on est amis, on peut tous dire, c'est bien l'avantage de l'amitié. Souvent, c'est bien plus fort quelquefois que dans un couple, parce qu'on peut vraiment tous dire, et on pardonne plus facilement, paradoxalement, à ses amis qu'à son mari ou sa femme.
C'est ce que je crois penser, hein, moi. Oui. Bon, j'espère. Bon, je l'appréciais beaucoup, puis voilà, quoi, en fait. Mais je pense qu'elle est mal intérieurement, je pense, hein.
Ah bah, pour réagir comme ça, elle est probablement en grande souffrance. Et puis elle mélange peut-être un peu tout, là.
Et elle mélange tout.
Elle a interprété des choses que vous avez dites.
On n'a jamais débordé, vous voyez, les limites. On n'a jamais eu quoi que ce soit, etc. Tout ça. Encore, il y a eu ça. J'aurais pu comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Et puisque je rebondis sur quelque chose, puisqu'elle vous a terminé ce message en disant « pleurer de rire », peut-être trouver quelque chose qui la fera vraiment rire. Un livre drôle ou des citations marrantes ou... En lui disant, voilà, désormais, je vais m'atteler à te faire rire. Quelque chose d'un peu clin d'œil pour dédramatiser de son côté les choses.
Oui. Ah, peut-être, oui, effectivement. Parce que moi, j'ai envoyé un mail en lui disant, il n'y a pas de problème, je vais déposer les clés chez qui tu veux, etc. En ce qui me concerne, je te considère... Je lis le mail en même temps que j'ai envoyé, hein. Je te considère toujours comme une amie pour qui j'ai beaucoup d'affection, comme tous les amis que j'aime. Je te souhaite bonnes vacances. En tout cas, je ne te retourne pas le dos et j'espère que tu vas aller mieux pour l'avenir et que tu seras heureuse. Voilà, bonne chance pour ta vie.
Ouais, alors le bonne chance, c'est pour ta vie, ça fait un peu adieu.
Ça fait un peu adieu, oui, c'est ce que je me dis. C'est pas toujours évident, vous savez, de trouver les bons mots.
Oui, alors justement, c'est bien ça qui m'ennuie, moi, dans tous
les... Il y a l'orgueil, ça c'est un côté orgueilleux, c'est mon orgueil là qui parle.
Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'ennuie dans tous les témoignages que j'entends, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à gérer les relations par SMS ou par mail, quoi. Et ça, oui. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien, parce qu'on n'est pas soi-même. Par SMS, on est quelquefois trop spontané. Et on peut regretter 3 minutes après, par mail, ça peut être le cas, ou alors l'inverse, on réécrit trop les choses, on pèse chaque mot, on n'est plus dans la spontanéité, on n'est plus dans la sincérité, on est presque dans le scénario. On met en scène ce qu'on écrit. Et une fois de plus, on ne gère pas les relations humaines par SMS ou par mail, quoi.
Mais vous savez, je suis complètement d'accord avec ce point de vue-là. Et je vous avais écouté, vous aviez déjà dit ça par rapport à d'autres auditeurs et tout ça. Et j'y ai ressorti, parce qu'elle gérait ses problèmes avec sa fille par mail.
Oui, mais c'est une sorte de fuite, ça aussi.
J'ai dit, mais arrête de gérer par mail, prends-la par téléphone, dans le pire des cas, mais sinon, voilà en direct et tout
évidemment.
Ça, et tu refuses la conversation par mail.
Et vous remarquerez que quand on a quelqu'un en face, on ne lui dit pas du tout la même chose que ce qu'on aurait écrit par mail.
Mais bien sûr.
Quand on est les yeux dans les yeux, c'est pas pareil.
Et bien sûr, on va avoir une conversation plus soft, plus réfléchie. Et on va faire un gros bisou à un moment.
Et puis, il se passe quelque chose quand on est face à quelqu'un. Il y a vraiment des émotions, il y a un véritable échange, même physique, dans la manière dont on se positionne, dans la synchronisation, dans plein de choses. Il se passe beaucoup de choses dans le non-dit aussi, dans ce qu'on appelle
tout
le paraverbal
fait.
Et le non-verbal. Sauf que quand c'est par SMS ou par mail, ça n'existe plus tout ça.
Non.
Les corps se parlent. Et je ne parle pas d'amour, là, je parle de relations. Dans n'importe quelle situation où
on est
deux... La manière dont on se positionne dit quelque chose aussi. Les messages passent. Et tout ça, c'est complètement gommé par les SMS et les mails. Et ça pourrit les relations, vraiment. C'est plus facile, ça c'est sûr. Mais le résultat n'est pas intéressant. 9 fois sur 10, il n'est pas intéressant.
Ah, les ruptures par SMS, c'est une horreur, je trouve.
Et j'entends la génération de maintenant, ils ne savent faire que ça. Hein.
Ah, c'est une horreur. Mais c'est... Ça va vomir, excusez-moi.
Mais le problème, c'est que c'est violent et que ça fait mal de chien. Donc
certaines personnes, à mon avis, ils peuvent se suicider. Quoi. Je veux dire, ça peut amener à certains extrêmes hein, au niveau du comportement.
Ah, mais c'est très, très violent. Mais on coupe toute humanité en faisant ça. Et ce qui est terrible, c'est que certaines personnes me disent, par exemple, en parlant de quelqu'un qu'ils veulent contacter, oui, mais elle ne me répond pas. Et c'est vrai qu'on est quelquefois maintenant obligé de forcer la porte quand on veut voir quelqu'un et lui dire, parlons-nous, s'il te plaît, parlons-nous. On arrête les SMS, on arrête les mails, on se parle. Mais quelquefois, il faut insister beaucoup parce que l'autre ne veut pas.
Tout à fait. Mais je suis très content de vous entendre dire ça parce que c'est un discours qu'on doit donner. On doit se battre pour que les gens reviennent à des relations de visu. Humaines,
exactement. Voilà. Ça s'appelle l'humanité.
C'est important. On est en train de partir sur une dérive virtuelle, on va dire, qui n'est pas positive pour les relations par rapport à tout ce que vous avez dit, le regard, la sensibilité, les émotions qu'on peut passer à travers. C'est dommage, quoi, en fait. Hein.
Oui, oui. Je suis en train de voir les SMS qui arrivent en même temps qu'on discute. Moi non plus, je ne supporte pas ce genre de paroles agressives, de plus en plus courantes. La conversation, le dialogue, oui, pas plus. Alors oui, il y a des gens qui vous trouvent un petit peu maladroits sur le côté psychorigine, mais vous l'avez dit vous-même, vous l'avez reconnu.
Oui, j'ai reconnu.
C'est arrivé aussi dans une personne. Conversation d'avoir un mot qui nous échappe. Quelqu'un qui, il y a Dieu qui nous dit, il y a des mots qui blessent, que l'on doit dire qu'au bon moment, les mots violents sont contraires à l'empathie. Donc attention. Et après, il y a Lucie qui prend votre défense, qui dit. Moi, j'aurais un ami comme lui aussi prévenant, d'autant qu'il a présenté ses excuses, je le garderai.
vous lui direz merci, vous l'embrasserez pour moi.
on va switcher, vous allez prendre Lucie comme amie, ce sera plus simple. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre amie ne va pas bien, ça c'est sûr.
Ben, c'est ce que je crois.
Et qu'elle a verrouillé une porte d'un seul coup. Quoi.
Et son ex-compagnon, il est pareil, il me dit... elle va pas bien, lui non plus va pas bien, ils vont pas bien tous les deux, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais il est aussi dans la compassion, quoi, en fait. Hein.
Ouais, alors François, ramenez un peu de douceur et d'humanité dans tout ça, maintenant. Hein.
Ouais, c'est ce que je veux faire.
Et vous ne déposez pas les clés, vous lui rendez.
De main à la main, quoi. En fait.
Exactement.
Ça m'a dit de les remettre à sa gardienne d'immeuble.
Eh ben non. Parce que, non, mais justement, c'est à vous de dire non. Non, je veux te voir.
D'accord.
Mais en toute bienveillance et en toute amitié, mais je veux te voir et te rendre les clés de la main à la main. Et puis vous pouvez même lui dire, si elle hésite, vous pouvez lui dire, j'ai un petit cadeau pour toi, j'ai quelque chose que j'aimerais t'offrir, voilà. Pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de chantage, que c'est pas, vous n'allez pas l'attendre au coin de la rue pour régler vos comptes, mais que vous venez simplement pour avoir
Un échange, oui. Un vrai échange.
Tout à fait, parce que moi,
virtuel.
C'est ce que j'ai peur aussi. Je me dis, elle croit que je suis en malveillance, quoi, en fait. Hein.
Non, trouvez-lui un bouquin drôle ou un film drôle en DVD ou quelque chose comme ça. Et un clin d'œil, quelque chose qui soit de l'ordre du clin d'œil. Non
d'accord.
Et puis ramenez-lui ses clés avec ça, en vrai, pas par le biais de quelqu'un d'autre encore. Hein.
Bon, ben, je n'y parlerai pas du film que j'ai vu ce soir, alors Nourieff.
Non, on va éviter. Non, quelque chose qui lui fera, qui la fera vraiment rire.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Remettez un peu de légèreté et d'humanité dans votre amitié, c'est important.
Ben, je crois. C'est ce que m'a dit son ex-compagnon, et puis il n'a pas tort. Il a bien vu les choses, je crois. Ils ne s'entendent plus, mais il est encore lucide. Et puis, c'est ce que je pense. C'est quelqu'un de bien, quand même. Ils sont séparés pour leurs raisons de couple, mais je crois qu'il a bien vu les choses, parce qu'elle est en souffrance. Hein.
Oui, puis je pense que comme elle s'est sentie rejetée d'un côté, elle vous a rejeté de l'autre aussi. C'est une réaction un peu enfantine, ce comportement-là. On rejette pas, on se sépare pas d'un ami sur un truc comme ça, c'est pas vrai.
Ouais, c'est
elle, elle réagit aussi comme un animal blessé, quoi.
Bah oui, je
donc,
pense.
Donc à vous d'aller l'apaiser maintenant.
Donc on va essayer de faire la chose pour que ça se passe bien et pour qu'elle soit apaisée, quoi, dans la mesure des choses, hein, encore. Hein.
Il y a
en
Luce,
tout cas, il y a une chose.
Oui, dites-moi.
Oui. Je vous en prie. Je vais dire, en tout cas, il y a une chose que j'ai vue, c'est que vos éditeurs sont très sensibles à ces sujets, hein, d'amitié et de rupture, quoi, en fait. Hein.
Ah ben, c'est depuis que le monde est monde, c'est ce qui nous fait parler le plus. Hein.
Oui, je crois.
Il y a Lucie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous fait un petit clin d'œil et qui dit « Je remercie notre charmante amie et je l'embrasse. »
Eh ben, vous l'embrasserez pour moi aussi.
Vous avez une fan.
Super.
Merci de votre appel, François. Prenez soin de vous et d'elle et de votre amitié.
Ben écoutez, ça m'a fait très plaisir d'entendre votre point de vue. Et c'est vrai que j'étais un peu perdu sur savoir si je permettais de continuer en étant gentil ou je coupais. Et effectivement, votre point de vue penche dans le sens où j'avais peut-être envie de continuer, et dans le point de vue de son ex-compagnon.
Soyez qui vous êtes. Le comportement de l'autre ne doit jamais changer ce qu'on est, nous. Vous ne devez pas réagir en réaction à ce qu'elle est, mais en étant simplement qui vous êtes. Peu importe la manière dont l'autre réagit, je reste celui que je suis.
Tout à fait.
Et là, on est sincère avec soi-même.
Oui, mais alors, moi, je suis quelqu'un de sensible. Vous avez peut-être dû le sentir, mais le voir, à travers mes paroles. Des fois, c'est pas toujours évident quand on est trop sensible. Et j'ai eu des ruptures comme ça à cause de ma sensibilité. Hein.
Mais oui, pas toujours facile à gérer, mais c'est une belle qualité quand même d'être sensible et d'oser le dire, surtout pour un homme.
Et il y a beaucoup de femmes qui préfèrent des hommes plus, vous voyez ce que je veux dire, plus macho, moins sensible, etc. Et je me suis entendu dire des paroles comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on fait avec. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas toujours accepté la sensibilité masculine, hein, tout en étant hétéro. C'est pour ça que je comprends le côté homosexuel. Je comprends la sensibilité des homosexuels.
Oui, parce que vous avez un côté un peu plus féminin que masculin. Ce qui n'a rien à voir avec la sexualité. Hein.
Ah non, non, du tout. J'adore les femmes, j'adore le corps d'une femme, j'adore être avec des femmes. Mais j'aime bien la compagnie des homosexuels parce que je les trouve rigolos, sympas, gentils, souvent très avenants, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas d'a priori. Moi, je suis très ouvert sur les. Et pour moi, ça définit pas un individu.
Son orientation sexuelle, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Ça définit pas quelqu'un. Mmh. Voilà. Je dirais qu'il y a des imbéciles dans les deux camps, quoi.
Tout à fait. Et des intolérants dans les deux camps aussi.
Ah, aussi, aussi.
Bon, on va rester là, François, sinon on déborderait sur un autre débat que j'aurais volontiers, mais peut-être un autre soir.
Ben écoutez, j'aurai l'occasion d'essayer de vous rappeler sur un autre débat, si vous acceptez.
Avec plaisir. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée.
Et ben moi aussi, puis je vous remercie de votre accueil.
Avec plaisir. Au revoir, François.
Bonne soirée.
Bonsoir à vous, Clara.
Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, c'est magnifique cette chanson.
C'est beau.
Et puis, je stresse parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous expliquer ma situation.
Je vous écoute, je suis déjà ravie d'avoir eu le temps de vous prendre avant la fin de l'émission.
Oui, et puis, je suis... pour ces SMS aussi, c'est trop violent. Bon, enfin, on n'a pas le temps de parler de ça, mais je vous donne entièrement raison à cet homme qui a appelé juste avant moi. Mmh. Je ne me souviens plus son prénom.
François.
Je ne sais pas ce que vous a dit Amandine. Je stresse parce que je vois le temps qui tourne et je ne vais pas avoir le temps.
De vous savez, 15 minutes, ça permet de dire beaucoup de choses déjà.
D'accord.
Vous parlez d'une rencontre avec une femme qui vous a mis mal à l'aise.
Mais plus que mal à l'aise, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Cette femme a été très attirée par moi. Bon, je suis quelqu'un qui m'exprime énormément, qui sait très bien parler. Et là, je ne trouve pas mes mots. Voilà, j'ai aidé des tas de gens dans ma vie et là, je ne trouve pas les mots qu'il faut. Donc, cette femme a été très attirée par moi.
Mais vous êtes homo ou hétéro?
Bi.
D'accord, donc d'accord, ce n'était pas une surprise elle, pour vous?
Non. Non, pas du tout. Elle est hétéro, mais par contre, j'ai décelé quelque chose que peut-être j'ai réveillé, quelque chose qui peut-être est hétérofoulé en elle, peut-être depuis un moment, c'est possible. Et donc, cette femme a été très attirée par moi. On a eu une relation très fusionnelle, passionnelle, pas pouvoir se passer l'une de l'autre, se voir tous les jours. Enfin, c'était très, très intense. Mmh. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me faisait peur, parce que je tombais très amoureuse d'elle et qu'elle était très perturbée par moi aussi, mais peut-être pas... Enfin, c'est perturbée quand même. Et
bah,
puis,
par vous et peut-être par la révélation pour elle de cette homosexualité qu'elle se cachait peut-être elle-même.
Mais peut-être. Et je me suis dit, est-ce que je me suis fait avoir? Est-ce qu'elle est bipolaire? Est-ce qu'elle est narcissique? Parce que quand je lui ai dit que j'avais peur et que je voulais un petit peu, moi la première, rester un mois, 2 mois et sans la voir, et là elle ne pouvait pas supporter, c'était un choc terrible pour elle quand je lui ai dit ça. Donc à la limite j'étais un petit peu, j'avais pas trop envie de le faire, Sabine, mais
pourquoi est-ce que vous aviez ce besoin d'appuyer sur la pédale frein d'un coup? C'était trop vite.
Mais parce que peut-être parce que j'ai eu très peur, parce que j'ai senti venir le grain et que je me disais que une femme qui n'est pas libre, j'ai eu peur. Voilà, donc je lui dis que peut-être pendant 1 mois, 2 mois, je ne la verrai pas. Et ça l'a très mal supportée, elle a eu une montée de larmes, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, que ceci et cela.
Donc c'était rassurant pour vous, ça?
Mais bien sûr, donc j'ai appelé une amie le soir et elle m'a dit, tu vois, elle me dit, tu vois, c'est bien, ça veut dire que... Alors, j'étais très heureuse et j'ai dit, bon, on va partir sur un truc, on va faire doucement, on va voir comment ça va évoluer, j'abrusquerai pas. Et puis c'est elle qui a mis un terme brutalement à cela, en m'insultant, en me disant des choses très agressives.
Mais combien de temps après que vous lui avez proposé de faire un break?
On met très peu de temps, Sabine, c'est ça, c'est-à-dire 2 mois après. 2 mois après, et je ne m'en suis pas remis, nous ne nous sommes pas revus, et je ne m'en sors pas, je suis même allée voir quelqu'un, mais je ne m'en sors pas. J'ai des fois envie de l'insulter, je lui ai préparé une lettre en lui disant que c'était des traumatismes. C'est une femme qui ne... sait pas dire, parler d'amour et qui ne veut pas qu'on l'aime non plus, qui est très dure, qui ne montre rien.
Ah ben vous avez la réponse à votre question là, Clara. Elle ne veut pas
qu'on
l'aime.
Et qui est dans la séduction, elle ne veut pas qu'on l'aime.
Et vous l'avez aimé tellement fort qu'elle a reculé quoi.
Oui, mais alors vous comprenez que c'est paradoxal, c'est une confusion totale puisqu'avant elle ne voulait pas que je la laisse. Donc vous voyez que ça alors, ou elle est narcissique, ou elle est bipolaire, elle est très agressive. Parfois, je lui ai fait une lettre en lui disant que c'est... Mais elle ne l'a pas, je ne l'ai pas donné encore. C'est un traumatisme de l'enfance, lié à l'enfance, parce que j'ai fait un peu de psycho il y a 20 ans.
On dirait qu'elle rejoue la blessure d'abandon, là, en l'occurrence.
Voilà, et je lui dis... Voilà, et ben voilà, merci. Je lui ai dit qu'elle a provoqué...
L'abandon qu'elle craignait.
C'est qu'elle redoutait le plus la rupture. Donc je ne l'ai pas donné encore cette lettre. Mais quand je lui ai dit qu'elle me manquait il y a 3 mois, 100 fois plus 3 mois déjà, 6 mois, elle m'a dit il n'y a plus rien, j'ai tout oublié. Et ça m'a fait un mal fou.
Oui, ce sont des mots, ça ne veut pas dire que c'est vrai.
Mais si, Sabine, parce que quand je la vois, je peux passer devant elle, ça ne lui fait plus rien.
Ah, vous travaillez toujours ensemble ?
Non, je ne travaille pas avec elle.
Comment vous la voyez, alors ?
Mais parce que je sais où je peux la voir, par exemple.
Ah, oui.
Oui, eh bien, vous voyez, elle fait semblant de ne pas me... d'être indifférente, d'être s'en foutre, mais elle regarde quand même la direction où je vais, ce que je fais. Je voudrais savoir... Bon, on va pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je suis stressée, parce que je ne m'en sors pas. Voilà, je ne m'en sors pas, je ne voudrais savoir le comportement de cette femme, vous l'avez dit vous-même, l'abandon, l'enfant, certainement.
J'ai pas son histoire, mais a priori, quelqu'un qui se comporte comme ça, très souvent... Effectivement, comme vous l'expliquez très bien avec vos mots, c'est qu'elle se débrouille pour se remettre en situation qu'elle craint le plus, comme pour se prouver inconsciemment à elle-même que de toute façon elle ne mérite pas. Elle mérite juste d'être quittée, d'être abandonnée. Mais si elle n'en a pas conscience, si elle n'a pas fait un travail sur elle, elle va avoir l'impression que vous parlez chinois.
C'est ça, elle est dans le déni total. Alors, elle ne me dit y a plus rien, j'ai tout oublié, et quand je la croise. Je vois bien qu'elle est indifférente, ou qu'elle ne l'était pas indifférente du tout.
Enfin, l'indifférence peut être un masque aussi, attention. Qu'est-ce que vous espérez, vous, aujourd'hui, en fait ? C'est ça qui est important, parce que elle, quelle est les blessures à soigner, ça, c'est très clair, mais ça, c'est son histoire à elle, c'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas sa thérapeute ?
Non, du tout. Mais je l'aimais énormément. J'étais très. Puis elle aussi. Je le pense. Je le voyais à son comportement. Elle pouvait pas se passer de moi. Je le voyais. Il fallait qu'elle me voie tous les jours. Je le voyais bien quand même ça. Et ça m'a fait peur parce que c'est une femme qui n'est pas libre.
Ce masque qu'on appelle le masque du dépendant, c'est vraiment une grosse blessure d'abandon. Quelqu'un qui est très rapidement dépendant à ce point-là. Certes, c'est l'amour bien sûr, mais c'est aussi.
Donc j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de lui dire ça, Sabine. J'ai fait une erreur. Je le paye.
Je croyais que vous lui avez pas écrit, vous lui avez pas donné la lettre.
Non, pas encore. Je ne lui ai pas donné. On se voit plus. Donc je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'elle l'apprendra ? Est-ce qu'elle le dira ? Oui, je parle de ça exactement dans la lettre. Je lui dis ça. Je termine la lettre en lui disant que je peux lui donner cet amour maternel. Tout aussi fusionnel que l'autre. La serrer tout doucement et comme un oiseau blessé, fragile par la vie.
Sauf que ce n'est pas un service à lui rendre, je suis désolée, Clara. Le service à lui rendre, c'est pas de la garder enfant et de la conforter dans cette blessure d'abandon en lui disant moi je ne t'abandonnerai pas. Le service à lui rendre, c'est de lui permettre de grandir et de ne plus avoir à jouer ça. De ne plus avoir peur de l'abandon.
Mais quand je lui ai dit que moi, ça me faisait mal de ne plus l'avoir, c'était au mois de septembre, ça fera un an en septembre, je n'avance pas bien quand je ne te vois plus. Et elle m'a dit, tu ne vas plus me voir, comme ça tu n'avanceras pas. Tu ne vas plus me voir beaucoup, comme ça tu n'avanceras pas. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Elle est narcissique, quand même, vous voyez, il y a un peu de méchanceté. Elle est très méchante.
Vous savez, quand on va mal,
elle est très méchante.
La majorité du temps, les gens qui vont mal sont méchants.
Je lui ai dit, j'irai mieux en te voyant, en avançant mieux, parce qu'elle parle toujours qu'il faut avancer comme moi, c'est ma devise aussi. Mais tu n'avanceras pas parce que tu ne vas pas me voir beaucoup. Voilà ce qu'elle m'a dit.
Oui, c'est méchant, mais c'est marrant, c'est la troisième fois ce soir que j'ai cette image d'animal blessé. Un animal n'est jamais aussi dangereux que quand il est blessé parce qu'il souffre. Et l'humain est pareil.
Alors j'ai l'impression qu'elle a pris ma personnalité, qu'elle m'a démolie parce que je suis passée par des épreuves terribles. Terribles, j'ai des épreuves terribles, moi. Ce qui m'a sauvée, c'est la foi. Je l'ai perdue, elle m'a fait perdre ma foi en me disant on ne peut pas rentrer dans une histoire pareille, tentation péché, voilà ce qu'elle m'a dit. Donc elle m'a fait perdre la foi, mais je sais que j'ai toujours au-dessus de moi une étoile qui est là, qui m'aide, qui brille, mais je suis en colère, je suis très en colère parce que je souffre et que je ne se vois plus et que je ne sais pas quoi faire, c'est tout.
Alors peut-être que maintenant...
Et que j'y pense constamment. Je suis très mal, vous comprenez ? J'y pense tout le temps. C'est une obsession, je ne peux pas rester comme ça.
Peut-être que maintenant, il serait temps de tourner le miroir vers vous-même. Et avant de vous occuper de la soigner, elle, de vous réparer, vous. Parce que j'entends aussi chez vous des tas de blessures qui sont en résonance et ce n'est pas pour rien qu'inconsciemment, vous êtes allé vous mettre dans une situation comme ça.
Bien sûr. Mais bien sûr, elle a su m'apporter quelque chose où j'avais un très gros manque. Bien sûr, elle l'a comblé. Bien sûr, bien sûr.
Oui, sauf que là, elle est en train de vous montrer que tant que vous attendrez de l'autre de tenir debout, ça ne fonctionnera pas. Si vous attendez de l'autre...
Alors, il y a mon ego, parce que je me dis qu'elle a gagné aussi. Voilà,
oui, alors l'ego, dans ces cas-là, on essaie de le faire taire assez rapidement, parce qu'il est rarement
elle m'a
bon conseil.
Elle m'a jeté comme une... Donc, je me dis, elle s'est bien sortie, elle a gagné. Voilà, et moi, elle m'a démolie. Voilà,
mais personne gagne, personne perd dans ces histoires. Une fois de plus, vous avez bien compris que l'ego, il vaut mieux le faire taire. C'est un très mauvais conseiller. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi vous êtes allé vous mettre dans une situation comme ça. Et qu'est-ce qui a réparé d'abord chez vous?
Oui, ça je sais.
Vous occupez.
J'avais un très gros manque. La mort de ma mère. J'avais un très. Je l'accompagnais dans cette maladie d'Alzheimer. J'ai eu une agression terrible il y a 20 ans. Terrible. C'est pour ça que je me suis tournée du côté des femmes. Et à l'époque, j'avais rencontré une fille extraordinaire qui est morte avec une autre amie à moi dans un accident de voiture que nous avons eu. Donc, je me suis retrouvée toute seule, la mort de ma mère, toute seule. J'ai eu un homme dans ma vie que j'ai énormément aimé, qui m'a beaucoup aimé. Puis après, je me suis tournée vers les femmes. Et,
oui, on sent
et
que
cette femme a ressurgi.
Mais oui.
Et puis, ce qui m'en a fait sortir, c'est cette grande spiritualité que j'ai, cette grande grâce que j'ai eue du ciel. Et là, je n'ai plus la grâce. Je leur dis au ciel, vous m'avez abandonné. Je n'ai plus cette grâce. Vous m'avez abandonné.
Alors, allez rechercher toute seule, Clara. Allez vous prendre par la main. Allez prendre par la main la petite fille, la jeune femme que vous étiez. Allez vous donner à vous-même cet amour-là. C'est ça le plus important maintenant.
Oui, elle m'a démolie, elle m'a pris. M'a pris en moi toutes les qualités que j'avais.
Non, elles sont encore en vous. Elles sont peut-être un peu cachées, mais elles sont en vous. On va être obligé de se quitter là-dessus, Clara, mais vraiment, centrez-vous sur vous. Si vous voulez qu'on reprenne cette conversation, à ce moment-là, ce sera peut-être vendredi prochain, parce que demain soir, on a une spéciale à Nuit de Compagnie.
Oui, je suis vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien du tout, même.
Alors, rappelez-moi vendredi prochain, si vous voulez, je vous prendrai en priorité.
Je voudrais bien. Et vous pensez que je peux lui donner... On en parlera d'ici.
Non, ne bougez pas d'ici là, s'il vous plaît.
D'accord.
Ne bougez pas. Concentrez-vous sur vous, reportez les choses importantes sur vous. Et on reprend cette conversation. Je vous promets que je vous prends en priorité vendredi, d'accord?
Merci.
Je peux vous serrer dans mes bras?
Oui, c'est gentil, merci.
Je vous embrasse très fort, Clara. Je vous promets que je vous récupère vendredi prochain, d'accord?
Merci, au revoir.
Merci à vous. Oui. Notre émission se termine en douceur. Merci à vous tous qui avez été très présents ce soir par téléphone, par SMS. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain soir à partir de 23h avec le même plaisir. Et je vous l'ai dit, demain soir, notre émission sera consacrée aux animaux de compagnie, surtout aux animaux avec lesquels nous avons vécu des choses exceptionnelles, ces animaux qui nous font du bien. N'hésitez pas demain soir à appeler le 3921 pour partager votre expérience. Je vous souhaite une très belle nuit. Dans un instant, vous serez en compagnie de Fabrice Dalméda. Bonne nuit et à demain.